En raison d'appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales et portant sur le projet de réforme des retraites dont on parlait tout à l'heure, nous ne sommes pas en mesure sur France Inter de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions donc de nous en excuser et vous proposons une rediffusion de la bande originale datant du 16 septembre dernier, avec Nagui bien sûr.
La bande originale, c'est avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour Daniel.
Daniel Morin.
Bonjour public.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bassureau. Et notre invité Florence Pervert.
Bonjour.
Bienvenue Florence, actuellement au théâtre, c'est la suite française d'après le roman d'Irène Némirovski, on va en parler, c'est Virginie Louman d'ailleurs qui fait l'adaptation et la mise en scène.
Avec Stéphane Laporte, l'adaptation.
Et puis du beau monde sur scène, parce que ça joue extrêmement bien avec vous évidemment, Béatrice Agenin, Guylaine Landaise, Samuel Glomet, Emmanuel Bougerol qui est tellement drôle,
drôlissime.
Mais tellement drôle, parce que paradoxalement le sujet est grave, mais on rit pendant cette pièce. C'est des gros volants en alternance avec Gaëtan Borg, tout cela donc au Théâtre La Bruyère. On va en parler, mais d'abord des questions concernant, et ça ne fonctionne pas, je ne sais pas.
Voilà.
Concernant Florence Pernel, quelle expérience Florence a-t-elle vécue à 7 ans?
Fin de la question.
Ouais. Quelle expérience a-t-elle vécue à 7 ans? On parle d'une expérience professionnelle.
Oui, bah bien sûr.
Ah, bah elle a fait des photos, elle a accompagné sa maman
mannequin
sur un tournage, elle a fait de la figuration.
Non.
Mannequin.
Si, si, elle a tourné dans un film, elle a remplacé
Marina,
une petite fille qui avait déjà été choisie.
Jouer en public, monter sur les planches, chanter devant des gens.
Ah non, tu me dis que j'ai la bonne réponse, non?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Nagui est en train de parler tout seul.
Non, mais c'est Leïla qui a raison. C'est Leïla qui a raison. C'est-à-dire en accompagnant.
Tu fais les bruits à la bouche? Moi, je fais les bruits si je veux.
Ça va déjà.
Mais comme je réponds pas aux questions, je peux faire les bruits.
À 7 ans, à 7 boîtes à jingle. À 7 ans, vous avez eu votre premier rôle, en tout cas.
En fait, j'ai suivi ma maman. Ouais, j'ai suivi ma maman qui avait des amis à France 3 Marseille, parce qu'on habitait Marseille à l'époque. Et c'était une petite période compliquée dans nos vies. Et elle m'a dit, viens avec moi, ça te changera les idées. Et elle faisait de la figuration où elle était nonne sur un film qui s'appelait. Alors, c'est Plein Soleil. C'est pas celui de René Clément.
Ok. Hein. C'est pas raisonnable de venir avec son enfant quand on fait les nonnes, quand même.
Voilà.
Ouais, c'est pas
et
dans le rôle.
Et en fait, je l'ai accompagnée parce que ça se passait dans un pensionnat et il y avait plein de petites filles. Et donc, elle m'a dit, on te trouvera bien un rôle. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, Marie Susini, qui était l'écrivain qui avait fait le scénario de sa propre vie, parce qu'en fait, c'était son enfance, a fondu sur moi en me disant, mais qui tu es, toi? J'ai dit, je suis la fille de la dame qui est là.
De la nonne.
Et en fait, je ne sais pas. je suis la fille de la nonne. Et je ne sais pas si c'est parce que je lui ressemblais enfant, si parce qu'elle a été touchée parce que je représentais ou ce que j'étais. Enfin, bref, elle a fait des pieds et des mains pour que je fasse le film et j'ai fait le film.
Ce souvenir a l'air très présent dans votre mémoire. 7 ans, on a toutes les...
Oui, parce que
tous
c'est...
les détails encore présents.
Oui, et en même temps parce que dans mon parcours un peu chaotique de comédienne, j'ai toujours eu une chance dingue parce que là, finalement, c'est quand même le hasard qui me met sur le chemin de Marie Susini. Et ensuite, bien plus tard, je vais être comédienne et puis je vais de nouveau arrêter et c'est de nouveau le hasard qui va mettre sur ma route Dominique Bessière. Donc en fait, c'est étonnant, mais
est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est votre destin finalement et une espèce de fatalité en disant mais vous êtes faite pour ça.
Le destin, il faut y croire. Donc je suis pas sûre de croire au destin, mais
ni à la fatalité ni au fait que finalement on est fait pour quelque chose, qu'on le veuille ou pas.
Alors peut-être est-on fait pour quelque chose. En tous les cas, si le ciel existe, il a beaucoup insisté pour que je sois comédienne.
Il a bien fait. Quel genre de rôle de femme aime-t-elle particulièrement tourner?
Les femmes qui ont existé.
Exactement, Tom.
Ouais,
les femmes de pouvoir.
J'aime beaucoup les femmes de pouvoir. J'aime beaucoup les femmes politiques et je regrette que la fiction française ne s'en empare pas plus que ça, je veux dire. Et que quand on voit les fictions, je vais encore parler des fictions anglaises ou américaines, mais c'est vrai, regardez, en ce moment, il y a Years and Years avec Emma Thompson, mais on rêverait de faire
avec
ça.
Avec une femme au pouvoir.
France. Mais oui, mais oui. Et puis une femme dangereuse, mais c'est formidable de jouer ces femmes-là. Ou quand on voit Borgen.
Pourquoi c'est plus excitant amusant ou intéressant de jouer le rôle d'une femme politique ou une femme de pouvoir et pas d'une femme d'affaires ou pas d'une
femme de pouvoir aussi, ou pas d'une nonne.
Mais une nonne aussi, ça doit être passionnant.
En quoi le métier du rôle est important plus que les sentiments ou les états par lesquels elle passe.
Parce que je pense qu'être une femme de pouvoir, c'est très compliqué, quoi. C'est finalement le pouvoir a été donné aux femmes et encore. il faut le prendre. Il y a du boulot et que donc exprimer le pouvoir en tant que femme, c'est une gageure, quoi. C'est-à-dire et parce que dès que vous exprimez le pouvoir, comme par hasard, on vous renvoie à votre sexe. Les remarques sont souvent sexistes, etc. Et dès que vous êtes autoritaire, vous êtes castratrice. Dès que vous êtes, vous parlez plus fort, vous êtes hystérique. Enfin, voilà, quoi. Donc je pense qu'il faut.
Ben oui, mais si c'est vrai, c'est vrai.
Il faut le laisser parler un peu, il faut qu'il existe. Oui, c'est son rôle.
Ne sois pas castratrice.
Je pense que c'est passionnant de conjuguer à la fois la féminité, la famille, l'amour et le pouvoir. Et que c'est, pour une comédienne, c'est un parcours passionnant. Voilà, mais après, une nonne, c'est tout aussi passionnant.
Dans Baron Noir, il y a Anna Mouleïs qui
a absolument, ce genre Oui. Quand j'avais fait La Conquête, Cécilia Sarkozy n'étant pas vraiment au pouvoir, c'était aussi tout à fait passionnant de travailler cette femme qui était une femme de l'ombre, quoi, au fond. Plus une grande amoureuse.
Femme de l'ombre, alors là, c'est quoi? C'est un clin d'œil à Nathalie Baye aussi
qui l'avait joué. J'aime beaucoup.
Quand Florence Pernel est au théâtre, elle a besoin de 8 heures de sommeil et...
d'une sieste de 10 minutes.
Exactement.
Demain, je serais nul, mais aujourd'hui, j'étais au taquet.
Vous êtes cousin ou quoi?
Non, voyeur. Ça n'a rien à voir.
Là, n'empêche pas l'autre.
Vous avez besoin de dormir et faire une sieste de 10-20 minutes.
Oui, pour me...
Et alors, c'est juste avant de monter sur scène ou c'est l'après-midi?
Non, c'est sur scène. Mais ne le dites pas, Daniel.
Pardon, je me tais.
Non, c'est souvent en début d'après-midi, mais c'est parce que je me lève tôt, donc voilà, j'ai besoin...
C'est le petit coup de barre d'après-repas?
Ouais, c'est le petit coup de barre, mais même si je dors pas, je vais vous dire, je me mets sur les podcasts de Fabrice Drouel, figurez-vous.
Ça fait dormir, ça, c'est vrai.
Non, j'adore. Si j'arrive pas à dormir, je me mets sur ces podcasts.
Très bien. Alors, allons sur scène justement avec Florence Pernel. Et il peut lui arriver sur scène d'avoir
peur, paralysie,
un malaise.
Ouais, c'est ça, exactement.
Quoi?
Des paralysies de peur.
Ah, c'est du trac, ça. Oui. Mais enfin,
je trouve ça surprenant quand on voit votre parcours. Je vais vous dire, je l'ai plus avant de commencer.
Après sur scène, ça y est, c'est parti, quoi. De toute façon, vous êtes lancé.
Vous pouvez avoir un trac monumental.
Je peux avoir un trac monumental et je crois que le plus gros trac que j'ai eu, c'est avec François Vincentelli. Nous faisions en direct le Dindon.
En même temps, quand on le voit, on a déjà peur.
Quel amour, j'adore cet acteur, il est merveilleux.
Soi-disant, il est beau. Soi-disant, il joue bien.
Je l'aime pas.
Ouais, il est merveilleux. Bon, bref. Et donc, nous faisions le Dindon et c'était une captation. Et donc, là, non seulement vous avez.
Captation du Dindon. Roy Laboux, bienvenue dans ce monde.
Et c'était mis en scène par Bernard Murat, c'était à Édouard VII. Et là, non seulement vous avez les 800 spectateurs dans la salle, mais vous avez plusieurs millions de personnes qui vous regardent en même temps. Et là, vous savez que si vous vous plantez, mais c'est la honte de votre vie. Et nous étions tous les deux, je pense que j'ai jamais vu Vincentelli aussi blanc, et Berléand aussi, qui était, mais vert. Comme...
Mais quoi, tous les trois, vous aviez peur?
On était morts de trouille. Et Berléand, drôle, François Berléand,
Je rappelle que François Berléand, pour ceux qui ont oublié, était comédien, quoi. C'était en
1990.
Et Berléand, il était blanc comme un linge.
Mais c'est sa couleur naturelle, l'envers.
Mais en même temps, on peut comprendre quel est le trac. Jouer avec Berléand et Vincentelli, franchement, il y a un moment où ça peut faire peur.
Je le souhaite à beaucoup de comédiens, je peux vous dire, parce que
c'est les gens qui se demandent là si c'est du lard ou du cochon, tout ça. Et on les embrasse, évidemment, tous les deux. Le trac, vous avez souligné la présence de caméras. Il était donc sujet ou en tout cas la cause était la présence de ces caméras et la captation, plus parce que vous n'avez pas le trac tous les soirs quand au théâtre La Bruyère.
Non, j'ai pas le trac tous les soirs, mais si vous voulez,
c'est l'absence de droit à l'erreur.
Dès que vous présentez un spectacle, dès que vous avez la responsabilité d'un spectacle, parfois quand vous savez qui est dans la salle, ça c'est mortel. Ah oui. Parce que
genre
ça...
les premières, les générales,
ouais,
ça vous plaît
les
pas
premières, les générales, vous avez beau dire non, mais on s'en fout des critiques, tu parles. On s'en fout pas du tout des critiques.
Alors est-ce que vous demandez à ce qu'on ne vous prévienne pas
qu'il y ait un tel ou un tel? Non, je ne veux pas savoir qui est dans la salle, je ne veux pas savoir, mais même ma propre famille, je ne veux pas savoir, ça me met dans tous mes états. Et puis c'est aussi pour rester extrêmement, enfin concentré quoi, ça me, commence à penser à qui est là.
Dans la vie, Florence Pernel, vous l'avez compris, pouvait avoir peur, mais elle a peur de quelque chose de particulier, plus d'un état d'esprit que d'un animal ou d'une situation. Elle a peur de quoi dans la vie?
De confort bourgeois, elle a peur de s'ennuyer.
Exactement.
Ouais, s'ennuyer.
Exactement.
Bon, je suis ouverte comme un livre.
Peur de l'ennui. Non, ils ont travaillé, c'est surtout ça quand même. Peur de vous ennuyer.
Oui, bah c'est pour ça que je pense j'ai été comédienne, quoi. Et parce que je voulais vivre plusieurs vies en une vie. C'est-à-dire qu'enfant, j'étais toute seule, j'étais assez isolée et je m'ennuyais ferme. Donc je me racontais beaucoup d'histoires et je me disais, mais comment on fait quand on est adulte pour pas s'ennuyer? C'était une hantise. Et donc je faisais beaucoup de petits spectacles, je montais des choses, je faisais des spectacles musicaux pour moi toute seule.
Alors ne pas s'ennuyer, ça veut dire lire, ça veut dire s'intéresser.
Alors ne pas s'ennuyer, c'est
avoir
surtout
des activités associatives.
J'avais surtout peur du vide de la vie, quoi. J'étais terrifiée à l'idée qu'une vie passe et qu'on n'en fasse rien. Voilà. Et donc, comme j'ai pas beaucoup de dons, je me suis dit, bah tiens, comédienne. Enfin, je me suis pas dit comme ça parce que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais quand j'ai découvert le fait de jouer et que j'ai enfin pris mon pied, parce que j'ai mis beaucoup de temps à avoir du plaisir,
à assumer,
à me trouver légitime, à être d'accord
on
avec.
En est tous là.
Voilà, on en est tous là. Moi, ça a mis du temps. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est exactement la vie qu'il me faut, parce qu'en fait, je vis sans vie en une.
Allez, dernière question sur Florence, après nous allons parler de suite française au théâtre La Bruyère. Qu'est-ce que Florence Pernel supportait à 40 ans, mais moins aujourd'hui?
L'alcool?
Exactement.
Ah bon?
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je cherchais quelqu'un.
Pardon. Alors, c'était
mais je vais passer pour une alcoolique absolue.
Non, une épicurienne. C'était une vanne, mais qui est la réalité. En fait, vous dites qu'avant, quelques verres de vin, ça allait, et vous voyez l'impact que ça peut avoir aujourd'hui.
Non, c'est plus lié à une vie de patachonne que j'ai eue. Voilà, je me suis beaucoup amusée, je suis beaucoup sortie, je dirais.
Bringuée.
De 20 à 30, oui, je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Hein. Donc, j'ai enchaîné, si vous voulez, beaucoup les nuits blanches. Et c'est vrai que quand vous sortez, vous dansez, vous buvez, vous fumez, voilà. Et qu'il y a un moment donné...
Le corps vous envoie des signaux en disant...
Le corps vous dit, arrête-toi un peu. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me fais rigoler toute seule quand je suis en position de lotus, en train de faire du yoga, en me disant, mais ma pauvre vieille. Donc, c'est arrivé, quoi.
En tout cas, je vous trouve en pleine forme, radieuse et séduisante.
Merci.
Donc vous inquiétez pas de ce côté-là, la nature vous laisse tranquille, la nature est bien faite. Alors parlons de cette pièce. Au théâtre La Bruyère, vous avez commencé la semaine dernière, suite française, adaptation du roman d'Irène Némirovski qui a eu le prix Renaudot posthume, puisque
absolument.
Malheureusement elle a été déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en parlera tout à l'heure de son parcours. Prix Renaudot 2004, l'histoire, ça se passe en 41, pendant l'occupation, et les Allemands occupent non seulement le pays, mais carrément les maisons et logent chez généralement des femmes, puisque leur mari est à la guerre, leur mari ou leur fils sont absents, donc ils logent. Même l'expression employée, il est le maître des lieux, il peut décider de tout, que ce soit cueillir des fraises ou se servir du piano ou d'objets personnels, voire intimes. Et de là arrive une situation, évidemment, une espèce de tension entre une mère et sa belle-fille. La mère étant jouée par...
Béatrice Agenin.
Agenin, merci.
La belle-mère.
La belle-mère. Ouais. Oui, mais vous l'appelez mère dans la pièce, c'est ça qui est troublant.
Autrefois, on appelait sa belle-mère mère.
Aussi, ouais.
Et vous êtes donc la femme de son fils.
Ouais.
Un peu d'ailleurs délaissée, on ne sait pas trop d'ailleurs si elle l'attend ou...
Je ne crois pas, non. Non, elle est mal mariée. Disons que les rapports rapport entre la belle-mère et la bru, hein, puisque ça s'appelle comme ça, je pense qu'ils vont très très mal depuis le départ. C'est-à-dire que le personnage de Béatrice Agenin est une possessive, est une passionnée. Et je pense que déjà que son fils se marie avec cette femme, ça a été un enfer. Enfin, c'est, elle était pas
on peut,
pour.
On peut tout dire ou pas de la pièce? On peut raconter, oui, puisqu'il y a eu un film, puisqu'il y a eu le roman, un peu que. Non, mais qu'il l'a clairement trompée.
Voilà,
avant.
Ah bah oui, elle le dit très vite. Et donc le mari, non seulement l'a trompée, d'ailleurs dans le livre, il la trompe, il a un enfant ailleurs, à Dijon.
C'est une double pas, vie. C'est pas,
oui, il a, ouais, il a une vraie double pièce, vie. Ça. Et donc, en fait, elle est mal mariée. Elle n'aime pas cet homme ne l'aime pas. Et là, la guerre arrivant, les restrictions, l'occupation, etc., elles sont obligées de vivre. Elles vivent à trois avec donc Emmanuel Bougerolles qui joue la petite bonne qui amène justement beaucoup d'humour et d'air frais dans cette maison.
Elle amène pas que ça.
Hein. Non,
elle amène aussi des résistants.
Oui, absolument. Elle amène le problème. et donc ces deux femmes en fait se détestent, mais elles sont obligées de vivre ensemble. Et cette femme Virginie a voulu vraiment que Lucille soit un peu comme une fleur qui se dessèche dans un pot. C'est-à-dire que c'est une femme qui est au bord de l'abîme. Sa vie est à deux doigts de basculer justement dans la nuit, dans l'ennui, dans la sécheresse, etc. Et donc et en fait elle est encore toute pleine de vie, de sensualité, de curiosité. Et donc quand l'Allemand arrive,
elle est troublée.
Voilà. C'est pas qu'elle est troublée, c'est-à-dire que non seulement l'Allemand, il se trouve qu'il est beau, qu'il est extrêmement civilisé. Alors ce qui est intéressant, il est joué par Samuel Glomé qui a toutes ses qualités. Et ce qui est troublant, c'est que en même temps, à la même époque, s'écrivait, puisque Irène Némirovski a écrit ça sur le vif, hein, elle a écrit ça en 1940-41.
Ouais,
voilà. Et donc elle s'est évidemment inspirée de ce qui se passait autour d'elle. Et ce qui est troublant, c'est que à la même époque, Vercors a écrit Le silence de la mer. Et c'est la même chose. C'est pas la même histoire, parce que la jeune fille est beaucoup plus jeune. C'est pas une femme, c'est une jeune fille. Mais ce sont ces premiers Allemands qui sont arrivés, qui étaient souvent des Allemands éduqués, francophones, francophiles.
Francophiles, c'est
voilà,
ça.
Absolument.
Il aime le pays, il aime la culture, il parle français, il joue
la français
musique.
Est encore la langue du siècle des Lumières.
Et
quoi.
Il est très respectueux.
Il est respectueux parce qu'en plus, ils avaient des ordres, les Allemands, au début. Quand ils ont occupé la France, ils avaient l'ordre d'être courtois, d'être civilisés, etc. Et donc, arrive cet homme face à cette
mais
femme
ça reste,
qui est totalement...
Ça reste quand même l'envahisseur quand vous
exactement,
dites...
Exactement, ça
dites,
reste l'ennemi. Hein.
Je vais juste préciser une chose avant que tout le monde s'énerve sur la toile tout à l'heure. Quand je dis il va, c'est elle qui va amener le résistant, vous avez dit oui, le problème, la résistance n'étant pas un problème,
non.
C'est pas ça. C'est
pas du tout, pas du tout.
Ce qui se passe, c'est que la présence du résistant
absolument.
Dans la maison va redistribuer les cartes et les rôles
les
des uns et des autres.
Et va obliger Lucille...
Et va révéler chacun dans sa personnalité.
Et va obliger Lucille à prendre des décisions. Voilà, qu'elle n'était pas peut-être partie pour prendre, quoi. Qu'elle n'était pas, voilà, c'était peut-être pas ça qu'elle allait faire.
Non, mais ce qui est fort, c'est qu'il y a à la fois une espèce d'intrigue, de suspense sur le déroulement, sur est-ce que le résistant va être sauvé ou est-ce qu'il va être arrêté, est-ce qu'elle-même va se faire prendre ou pas, est-ce qu'elle va trahir, entre guillemets, les intérêts du pays et du résistant. Et de l'autre côté, il y a toute l'intrigue humaine,
absolument.
Relationnelle, ouais, entre les différents personnages, et je dis bien les différents personnages. Ouais. C'est pas simplement une intrigue entre vous et
voilà, ce voilà, absolument, parce qu'en fait c'est
militaire.
Un tableau de l'époque.
C'est ça.
Et ces quatre femmes, puisqu'il faut aussi parler de Guylaine Londès qui joue Madame de Mondemort et qui elle aussi...
La femme du maire, pétainiste.
Pétainiste, voilà. Et donc c'est aussi un portrait de la collaboration.
C'est ça.
La façon dont on s'arrangeait et dont on collaborait. Et Guylaine d'ailleurs par son jeu amène aussi beaucoup de drôlerie,
ouais.
Mais de causticité, parce qu'en fait l'écriture d'Irène Némirovski est très à la fois elle peut être cruelle et caustique, et je trouve que comme c'est une écriture sans concession qui va directement à l'os, c'est ce qui amène aussi ce décalage qui à la fois on est sur quelque chose de grave mais on en rit. Il y a un côté un peu Tchekhov, quoi, on rit et on pleure d'un sujet qui au fond est quand même assez grave.
Oui, ça peut ressembler parfois à une sorte de comédie de caractère.
Exactement.
À certains aspects, oui, alors oui. qu'en effet, la toile de fond est tragique, qu'on connaît en effet l'histoire, oui. et qu'on voit ce rapport de domination qui est exercé par cet Allemand, mais aussi par la belle-mère. Donc c'est un jeu de pouvoir au sein d'une même maisonnée.
Oui, absolument. Et ça, c'est merci à Irène Némérovski, parce que encore une fois, c'est Virginie Lemoine et Stéphane Laporte ont vraiment respecté le livre, et beaucoup plus que le film, parce que le film a un côté plus hollywoodien et plus happy ending. Enfin, pas vraiment happy ending, mais disons, c'est plus policé, quoi. Alors que le livre garde toute la pudeur des rapports
et la pièce aussi, ouais, c'est ça. Ouais.
Et encore une fois, voilà, toute cette causticité de son écriture.
Au théâtre La Bruyère, Florence Pernelle est notre invitée. Nous parlons de Suite française, d'après le roman d'Irène Némérovski. C'est une adaptation qui a été faite par Virginie Lemoine et Stéphane Laporte. On va continuer bien sûr d'en parler tout au long de cette émission, mais d'abord, Florence, là, vous n'avez plus rien à faire. Les questions et les réponses sont faites par Tom Ville.
Florence Pernelle, bienvenue dans la bande originale. Tiens, j'en profite juste, Nagui, on embrasse peut-être ceux qui nous écoutent à la radio, et puis on fait aussi un coucou à ceux qui nous regardent en direct sur YouTube.
Depuis quand filme-t-on les gens à leur insu ?
Comment ça, à leur insu, Florence ? Vous étiez pas au courant que maintenant la radio était filmée ? Alors je vous rassure, hein, vous n'avez pas à vous en faire, parce que vous êtes très bien, et qui...
qui en plus, gaulé comme une reine.
Ouais, alors, t'as pas dit comme ça, je me serais pas permis, mais oui.
Mais où ?
Physiquement, vous vous plaisez, Florence ?
Pardon, j'en ai les larmes aux yeux.
Ça va le melon, oui.
On fait ce qu'on peut et comme on peut.
Alors, Florence Pernelle, vous êtes bien sûr actrice.
Tu sais que je suis agent maintenant, je suis agent de star.
Ah, bah, super imitation de Lynn Desner. Vous savez faire d'autres imitations ?
Dini Podalides.
Ok, super, allez-y.
Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? On t'a cherché partout, c'est quand même 7 ans que t'es parti.
On dirait quand même vachement Dominique Desner.
Ouais, c'est ça, hein, ouais.
Où est-ce qu'on peut vous voir sur scène faire ce spectacle d'une seule imitation
Pizza Pinot des Champs-Élysées.
Ah bah c'est super. On va venir, ça marche bien, il y a du monde.
On a commencé à 5, on a fini à 9.
Ah bah c'est pas mal, écoutez. Alors sans rentrer dans la team, ça va quand même financièrement en ce moment ?
Je me suis mise à vendre mes propres affaires.
Eh oui, hein, c'est dur, la vie d'artiste. Alors Florence, on va quand même faire la promo de votre pièce de théâtre de... Oui.
Et puis j'ai une anecdote assez rigolote.
Ah bah super, allez-y, c'est bon pour la promo ça, allez-y.
Ma mère avait des copains à faire 3 Marseille qui...
Qui quoi ? Oui, et ?
Et en fait, de fil en aiguille, voilà, j'ai... Mais je ne faisais pas en fait de casting de comédie.
Et donc ?
Voilà, absolument.
Voilà, j'ai rien compris à ce que vous avez dit. Pardon, hein, mais j'ai senti qu'il y avait une idée.
C'est
mais
possible.
Pardon de poser la
on
question.
On fait ce qu'on veut quand même.
Est-ce que vous avez bu ou peut-être parce qu'on dirait que vous buvez de l'eau croupie actuellement là.
On du gingembre dans de l'eau chaude.
Oui, c'est ça. C'est la potion de lendemain de cuite. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être revenu dans la bande originale ce matin, parce qu'aujourd'hui c'est la troisième fois que vous venez dans notre émission.
Et alors
qu'est-ce que vous avez dit ce matin avant de faire un troisième passage ?
On l'a fait une fois. Pourquoi le faire 3 fois
Et oui, c'est exactement ce que s'est dit Patrick Balkany en fraudant le fisc. Bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
française, un roman écrit par une main de femme, adapté par une femme et un homme, joué par plus de femmes que d'hommes, et puis
mise en scène par une femme.
Oui, mise en scène par une femme. L'œuvre étant sauvée par les filles d'Irène Némirovski. Oui. C'est très 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 féminin. Oh, tout
c'est
ça.
Une histoire extraordinaire, l'histoire des filles d'Irène Némirovski, puisque quand elle a été arrêtée devant ses deux petites filles. Une avait 13 ans, Denise avait 13 ans et Elisabeth avait 5 ans. Et elle a confié à Denise la valise dans laquelle elle avait écrit donc suite française, qui est aussi précédée de Tempête en juin. En fait, elle voulait faire un espèce de guérité, ouais. Et elle avait 5 tomes en tête et elle en a écrit que 2 puisqu'elle a été arrêtée. Et d'ailleurs, je précise que Tempête en juin est jouée à 19h et est interprétée par un extraordinaire acteur qui s'appelle Frank Detmets et qui joue à lui tout seul les 39 personnages de Tempête en juin. Je vous le recommande. Ouais. Moi, j'ai été...
Au Théâtre La Bruyère aussi.
Au Théâtre La Bruyère à 19h. D'accord. En fait, l'idée de Virginie et de Stéphane était de présenter toute l'œuvre, en fait, entière de Suite française. Et c'est, si vous voyez les deux spectacles à la suite, ils se répondent l'un à l'autre. Parce qu'on retrouve les personnages de Tempête en juin, on en retrouve certains dans Suite française.
Voilà. Et c'est un spectacle Suite française qui a été créé au Festival d'Avignon.
Absolument, on l'a créé il y a 2 ans. Et c'est pareil, c'est l'audace de Virginie Lemoine et de Stéphane Laporte, voilà, qui on a lancé ça à Avignon il y a 2 ans. Et ça s'est merveilleusement passé. On a refait un Avignon et voilà, nous arrivons à Paris. Et pour finir l'histoire de Denise et Elisabeth. Denise et Elisabeth, leur papa a été arrêté quelques mois après. Elles se sont retrouvées orphelines pendant la guerre. Elles ont été essentiellement sauvées par la bonne qui s'occupait d'elles et par Albin Michel qui n'a pas cessé de verser les droits d'auteur d'Irène Némirovski pour qu'elle puisse vivre. Et arrivées à la fin de la guerre, elles sont allées voir la grand-mère qui les a rejetées, de la même façon qu'elle avait rejeté sa propre fille. La maman d'Irène Némirovski. Donc la vie a continué, mais Denise, qui conservait cette valise, ne l'a jamais ouverte. Par peur, voilà. Et puis un jour, il y a
par trop de respect, peut-être,
ou
en
peut-être
disant.
Par, une peur émotionnelle. Ouais, quand je dis par peur, c'est. Ouais, je pense que ça doit être terrible de. Voilà, vous imaginez. Ouais. Et dans les années 2000, elle a. Ça, c'est Virginie qui m'a raconté ça. Donc, elle a une inondation chez elle. Et tout d'un coup, elle pense à la valise. Et elle va et elle ouvre la valise. Et
pour voir si tout est intact.
Mais surtout pour sauver le manuscrit de sa mère. Ouais. Et là, elle voit évidemment ce manuscrit qui est écrit en tout petit. C'est écrit très serré, quasiment sans rature, sur toutes sortes de papiers qu'elle trouvait, etc. Elle a retranscrit complètement le livre de sa mère. Et finalement, elle l'a fait lire à un éditeur qui l'a édité. Et voilà comment est arrivé
Chez Michel, j'espère.
De Noël.
D'accord. De Noël. Non, parce qu'il y avait aussi une reconnaissance à avoir.
Enfin, c'est une histoire, c'est la destinée de ce livre. Et, enfin, moi, j'avoue que la première fois que Virginie m'en a parlé, j'ai été plus emportée presque par la destinée du livre et d'Irène Némirovski que par l'histoire. Enfin, l'histoire, évidemment.
L'histoire est forte, mais la manière dont.
La manière dont tout ça arrive pour qu'on en parle aujourd'hui dans un studio, quoi.
C'est
en 2019.
C'est ça. Et qu'on aille le voir au théâtre La Bruyère. Ça s'appelle Suite française. Voici Marina Rolland.
Bonjour les amis, samedi j'ai fait une fête chez moi et vous n'étiez pas invités parce que je vous aime bien mais principalement contre rémunération. Et cette fête a été l'occasion de récolter plusieurs fois le volume de Gérard Depardieu en alcool d'hiver et je me retrouve ainsi 2 jours plus tard avec une santé et un appartement détruits, de quoi rester à 3,8 grammes jusqu'à l'élection de Bernie Sanders, mais en revanche il me manque plein d'autres trucs. Voici donc une petite liste non exhaustive des choses autres que de l'alcool qu'il est utile d'amener à une fête. Premièrement, des patins pour parquet. Tous les invités à une fête devraient porter des patins. Parce que quitte à se brouiller avec ses voisins à vie et à avoir la conversation la moins convaincante de l'histoire à 4h du matin avec des flics, « Bonjour madame, vous faites une petite fête ?»« Non, on dormait. » Devant la porte, vous êtes 16 avec des petits chapeaux pointus. Peut-être c'est à côté, je ne sais pas, allez voir. Quitte donc à se faire engueuler comme des enfants, à avoir envie de mourir le lendemain, autant en retirer un parquet qui brille. Deuxièmement, un truc à amener qu'on oublie toujours, des aspirines vitaminées, les amis. Parce qu'il y a un calcul de base qui ne va pas dans les fêtes, c'est que tout le monde amène une bouteille. Ce qui veut dire qu'à moins de boire une bouteille par personne, et il n'y a pas de raison, parce que je l'ai dit en début de chronique, je n'avais pas invité Daniel Morin, à moins donc de ça, il y a plus d'alcool que la dose journalière recommandée. Hein. Quand on voit la petite pyramide, tu sais, des groupes que tu dois manger et pas manger, on manque cruellement de tout ce qui est fibres et oméga 3 en soirée. Donc tout le monde finit foutu, mais le lendemain, parmi les cadavres de bouteilles et d'amis pour les moins résistants, tu cherches ton cerveau et ta boîte à pharmacie. Et c'est toujours ce jour-là que tu te rends compte que cette personne que tu aimais, avec laquelle tu as décidé de partager ta vie, qui jusque-là ne t'avait donné que peu de raisons de la stranguler, a remis dans la trousse à pharmacie une boîte de paracétamol vide. Elle l'a remise vide. J'ai failli le tuer hier. J'ai regretté de ne pas avoir un taser à la maison. Donc quand vous êtes invité, pensez à ne pas amener que des munitions pour se faire du mal, mais aussi la cure, aspirine, paracétamol, intraveineuse de morphine, peu importe. Ça mais montrez à vos amis que vous ne les aimez pas que pour ce soir, mais que vous avez aussi envie qu'ils voient demain se lever. Enfin, troisièmement, si vous allez à une fête, que vous ne savez pas quoi amener et que vous comptez arriver un peu tard. Amener à manger, bordel. L'autre connard qui arrive à 3h du matin avec de l'alcool de serpent, t'as envie de le tuer. Toi, ça fait déjà une heure que tu essaies de gérer tes potes les plus sensibles qui se sont lancés dans des confidences beaucoup trop gênantes. Je crois vraiment que je préfère l'aîné, le petit. Le petit, j'aime pas sa gueule, il me revient pas. Et toi, t'es là, non mais c'est quand même tes enfants, Joséphine. Enfin, d'ailleurs, il va falloir rentrer parce qu'il est tard. Et donc, ceux qui arrivent à ce moment-là avec plus d'alcool, non, juste non. Alors que vous seriez venu avec une petite tartiflette à 3h du matin. Des gloires seraient tombées du plafond, il y a un cœur d'enfant qui serait sorti d'un placard pour chanter un lead de Schubert. Enfin, je veux dire, voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aller me faire un petit plat de pâtes pesto ibuprofène.
Tellement le vécu.
Mais prenez soin de vous et buvez avec modération.
Évidemment, évidemment. Merci, Marianne. France Inter.
Nadie, la bande originale. Et on retrouve Marina au Théâtre de l'Œuvre tous les mardis et tous les mercredis, c'est à 21h.
Oui, venez.
Venez avec de l'alcool.
Oui,
et une tartiflette. Une tartiflette, ça c'est bien. Tout à l'heure, nous recevrons Olivier Philippona, qui est écrivain, journaliste et biographe d'Irène Némirovski. On va à nouveau évoquer le parcours incroyable de cet auteur. Mais d'abord, la musique. Alors, la musique sur scène.
Ah. Composé par Stéphane Corbin.
Ça, c'est la BO de la pièce de théâtre, ouais. Mais la BO de la vie de Florence Pernelle. On va commencer dans les années 80.
Tu as volé,
Quelles images vous avez en entendant cette chanson? Vous la chantiez?
Ouais, j'ai la hurlée. C'est toute mon enfance. J'ai adoré Becco. Je pense que mes parents écoutaient Becco. Je connais tout le répertoire de Becco. Je l'ai chanté pendant des années. Je sais pas, il a été mon compagnon.
Ce qui est fort, ce qui est fort dans cette chanson, c'est que c'est un jeu. Ouais. Il y a des répliques,
ouais,
tu as volé.
Mais non, absolument. Et j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois à l'Olympia. Et moi, on l'appelait Monsieur 1000 volts ou 100 000 volts. C'est tout à fait justifié.
C'est le premier.
Il électrisait les spectateurs.
C'est le premier artiste qui a fait que son public cassait les fauteuils.
Ah,
on avait l'image de Johnny cassant les fauteuils à l'Olympia.
Et quand il rentrait, il faisait ouais.
Moi, c'est son meilleur titre.
Ouais, non, mais je le trouvais très sexy, quoi. Il a vraiment accompagné mon enfance. Il y a eu lui et Serge Lama que je sentais à tue-tête, quoi. Et je faisais mes spectacles de Noël et tout ça.
Dans les années 80, Florence, vous avez déjà 3 films à votre actif, notamment Allons enfants d'Yves Boisset.
Ah ouais.
À cette époque-là, votre mère vous conseille de faire aussi des photos. Vous vouliez être indépendante, en réalité, gagner un peu d'argent pour...
Je voulais partir.
Pour partir à la maison, déjà.
Non, je voulais partir, je voulais voyager, je voulais... Oui, donc j'avais compris que...
À 14 ans.
Oui, je voulais partir au Pérou, ouais.
Et ça faisait pas peur.
Vous savez, être enfant unique, c'est un truc à double tranchant, c'est-à-dire vous êtes
prisonnier de la famille.
Soit vous avez qu'une envie, c'est justement de partir. En plus, moi, mon père et ma mère étaient un couple très soudé, ils s'adoraient, et j'avais l'impression d'être un peu en trop, quoi. Et en fait, je me disais, mais je vais partir. Je vais les laisser s'aimer et puis je vais partir. Et donc, c'était cette envie de partir. Et donc, j'avais compris que le nerf de la guerre, c'était l'argent.
Donc des pubs, des spots.
Donc j'ai fait plein de pubs. Oui, je suis allée dans une agence d'enfants et j'avais deux énormes trous là quand je souriais.
Des fossettes.
Des fossettes. peut-être qu'ils m'ont rapporté de l'or. Et j'ai tout fait, quoi. J'ai fait Danone. Alors, moi, c'est plus des rides, là, aujourd'hui.
Non, c'est des fossettes charmantes. Mais donc, vous avez fait quoi, Danone?
Voilà, j'ai fait Danone, Vivagel, les pompiers, sapeurs volontaires. J'ai fait.
Il y a des pubs pour Ginny aussi.
Ginny, vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, oui, absolument. Ouais. Voilà.
Entre 1982 et 89.
Ah. C'est pas une pub ça aussi?
Ah peut-être. Enfin, Grace Jones, elle en tout cas faisait la pub pour la Citroën si j'ai pas de
mémoire. Non, c'était le Palace. Moi c'est le.
Ça c'est les soirées au Palace.
Ah ouais.
Et
ouais.
C'est les fameuses nuits dont vous parliez jusqu'à.
Bah ça en fait partie, ouais. Ouais, ça en fait partie. Là c'était génial d'avoir la vingtaine et de s'éclater là-dessus quoi. Ouais.
Et à cette époque-là, vous décidez d'arrêter le métier de comédienne.
Ouais.
Vous venez de tourner un film de Denis Granier de Fer, que les gros salaires lèvent le doigt. Et en fait, vous réalisez que c'est pas forcément votre chemin.
Bah, c'est-à-dire que je pense que j'ai vécu un peu trop vite, quoi. Voilà, c'est un peu allé trop vite, et du coup, un peu comme quand vous arrivez à la cinquantaine, le corps se rappelle à vous. Et bien là, je pense que c'était plus psychologique, et je pense que j'avais une vie en fait trop d'adulte sans avoir vraiment vécu une adolescence, et que ça m'a rattrapé, que je me suis dit oula, je suis en train de. Enfin, voilà, je marchais sur un fil et je me suis dit, vaut mieux que je descende à terre, donc j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté pour faire de la brocante, j'ai arrêté parce qu'il fallait que j'arrête, c'était une question de santé.
D'équilibre.
D'équilibre, oui. Je l'ai senti comme tel, quoi. Je pense qu'au fond, je suis une paysanne et que le côté terrien chez moi a senti que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose. Et comme je suis très.
Vous risquez quoi si vous continuez à ce moment-là?
Je pense que je partais en sucette.
De se perdre, ouais.
Ouais, je pense que je partais en sucette. J'étais pas assez armée, quoi.
C'est ce qu'on entendait dans le milieu. Elle perd la boule, la perdale.
Oui,
hein. On entendait ça souvent.
Juste pour comprendre, partir en sucette, ça veut dire quoi? C'est avoir les démons justement de la nuit, de tous les produits qui vont avec, alcool, drogue et compagnie, c'est ça?
Oui, je pense que. Alors, je sais pas si je serais passée par là parce que la drogue. J'en ai vu passer plein sous. Ça m'a jamais tenté.
Vous avez failli dire sous le nez.
Mais je pense que c'était plus psychologique, quoi. J'étais plus du tout en phase. J'allais très mal. Voilà. Donc, j'ai préféré.
Et vous n'avez pas de vie familiale équilibrée?
Pas assez.
Vous n'étiez pas avec
pas assez.
Un homme qui...
Non, je pense que... non. Et je pense que ma famille, n'étant pas du tout de ce milieu, n'avait pas non plus les références pour m'aider. En plus, on s'est un peu éloigné, voilà. Donc non, je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc, je vous dis, en bonne paysanne...
C'est intéressant parce qu'on entend rarement ce genre de discours. Et puis surtout, on se dit que dans ce métier, quand ça marche,
ça n'arrive jamais,
on exploite le filon, quoi. On dit
bah là, ça marchait plus que bien. Parce que je devais faire aussi Mortelle Randonnée avec Isabelle Adjani, je devais jouer la petite gamine qui la braque dans la voiture et que j'ai préféré
refuser.
J'ai tout arrêté, vraiment, j'ai tout et c'est en fait pourquoi je suis arrivée à la brocante, c'est parce que comme je suis très catégorique quand je prends une décision, c'est total. En arrêtant, j'ai voulu me débarrasser de tout ce qui avait été ma vie avant et c'est comme ça que j'ai vendu mes affaires, voilà. Et j'ai découvert la vente à la sauvette, quoi, place de Montreuil, et tout d'un coup j'ai découvert les puces et je me suis dit ah mais c'est génial, c'est pour moi. et j'aurais pu vendre du riz au chinois, quoi. Ça m'a exalté.
Qu'est-ce qui vous a plu dans les brocantes en règle générale?
Bah, je pense que ce qui m'a plu, c'était
au début, c'est pour vous débarrasser.
D'abord, ça a été pour me débarrasser de tout ce que j'avais été. Et ce côté vendre, tchatcher, arriver à vendre, mais n'importe quoi, en racontant n'importe quoi, j'ai trouvé ça génial.
c'est être comédienne, c'est
ouais. Oui, mais alors déjà, il y avait un truc, il y avait un côté, voilà. Et en fait, je pense que ce qui m'a plu, c'était d'être moi, avec moi, et de plus avoir ce rapport à l'image. Parce qu'en fait, le problème, quand je vous dis que j'ai mis du temps à être d'accord avec le fait d'être comédienne, c'est que quand je me voyais, je disais mais c'est qui cette nana, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Je me détestais, en fait. Je n'aimais pas cette image et je me disais surtout mais c'est pas moi, il y a un gars.
Là, aujourd'hui, plein de personnes iraient voir un psy plutôt que de se mettre à la brocante.
Bah voilà, alors je ne suis pas allée voir un psy. Moi, j'ai tout dégagé.
Non mais on est d'accord. C'est un travail à faire sur soi.
Si vous voulez, même dans mon monde à moi, le psy n'existait pas. Ouais. J'ai pas pensé deux secondes à aller voir un psy. Et en fait, c'est par les actes que je me suis régénérée.
Et pourtant, 1989... Vous appelle à ce moment-là avec cette musique?
Là, je crois que c'est moi, je m'appelais toute seule. Non, en fait...
Vous avez fait assez brocante?
Non, en fait, après la brocante, j'ai voyagé. Parce que là...
Hein? Au Pérou?
Alors, je ne suis pas allée au Pérou, je suis allée au Mexique, je suis allée aux États-Unis.
Non, mais je pensais que le rêve péruvien,
non,
vous avez
finalement,
poursuivi.
Non, finalement, ça m'a lâché. J'ai tenté Rome, j'ai tenté de m'installer à Rome. Bon, toutes ces histoires aussi sont des rencontres, j'ai suivi un peu, voilà.
Des aventures.
Des aventures amicales, amoureuses, voilà. Parce qu'en fait, la brocante, c'était une histoire de groupe et elle a trouvé une fin, le groupe a explosé, etc. Et donc après, je suis partie aux États-Unis en me disant, de toute façon, les États-Unis m'attendent, hein, c'était évident. Voilà, donc je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que les États-Unis ne m'attendaient pas du tout.
Ils vont pas bien depuis que vous êtes repartie.
Voilà, ils auraient dû.
Bah, ouais.
Donc bref, et quand je suis rentrée en 89 en France et je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je n'avais rien, j'avais un bac. Alors la chose que j'avais pour moi, c'est que dans tous les pays, j'avais appris les langues, donc j'étais polyglotte, je parlais quand même 4 langues, et je connaissais un peu ce que j'avais appris en brocante, c'est-à-dire la pâte de verre et la céramique. Et donc je suis allée au Louvre des Antiquaires, j'ai vu un type qui faisait de la céramique et des pâtes de verre, et qui avait l'air de s'emmerder ferme dans sa boutique. Je suis rentrée, et je me suis présentée, je lui ai dit, voilà, je connais bien la céramique, je connais bien la pâte de verre, je parle 4 langues, je suis hyper sympa, je présente super bien, je vends du riz aux Chinois. Donc le type, je crois que je l'ai amusé et il m'a tendu une pâte de verre. Il m'a dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Donc je me souviens plus ou moins que c'était un dôme. Donc je lui ai décrit un peu dôme, la technique, le machin, l'année, tout ça. Il me dit, vous faites quoi cet après-midi? Je dis, rien. Il me dit, voyez la boutique en face, tenez, je vous donne les clés.
Génial.
Voilà. Et c'est comme ça que j'ai recommencé. Et en fait, c'est pendant que j'étais au Louvre des Antiquaires que que Dominique Besnéard m'a recroisé dans la rue, et c'est là où je vais encore vous faire une imitation, ouais, quand même, qui vaut de l'or, où il me fait Florence.
Voilà. C'était lui. Elle était où, la Pernelle, quoi?
Et il me dit, mais c'est pas chez vous, ça fait 7 ans qu'on cherche par chez vous. Et il m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Donc quand je vous dis qu'il fallait que je sois comédienne, c'est quand même incroyable.
Ouais, c'est la destinée, ouais.
Bah alors,
bah, faut-il y
croire?
Bah, ouais. Oui. Tu avais un truc à dire, Leïla, ou elle a tout raconté?
Non, après il y a aussi de beaux films qui arrivent. Il y a 3 couleurs, et Kieslowski, ça c'est quand même une filmographie, c'est
en fait Bleu, hein, de Kieslowski. Je dirais que Kieslowski m'avait dit, you will see this movie is gonna change your life.
Et alors?
Because he spoke like that. Et donc, en fait, ce qui a changé ma vie, c'est que le fait d'avoir été choisie pour Bleu, alors que c'était un casting assez large à l'époque, c'était encore Margot Capelier qui vous recevait, qui disait, bon, allez, vas-y, chérie, hein, je vais déjà tout raconter sur toi.
Grande directrice de casting.
Formidable directrice de casting, vraiment. Et donc, le fait d'avoir été choisie pour ce film, à ce moment-là, et de jouer face à Juliette Binoche, qui pour moi, mais c'était une icône, et ça l'est toujours, hein, c'est vraiment une actrice que je vénère. Ça m'a légitimé, en fait.
Est-ce que le trac que vous avez lorsque vous faites des représentations avec François Vincentelli et François Berléand, vous l'avez aussi quand vous êtes face à une comédienne que vous admirez, justement, comme Binoche, et là, ouais, vous êtes envahi du trac de ne pas la décevoir dans votre jeu?
Alors là, j'étais envahie du trac, mais le problème, c'est que je suis arrivée à 8h du matin et j'ai tourné à 6h du soir. Et la scène, la fameuse scène des toilettes, qui était d'ailleurs celle qu'on a faite aux essais, parce qu'après, il y a eu essais filmés, il y a d'abord eu essais parlés, ensuite il y a eu essais filmés 2 semaines après. J'ai attendu tellement longtemps dans la journée que j'étais en décomposition, si vous voulez. Et donc, quand je me suis retrouvée face à Juliette, dans une précipitation absolue, parce qu'ils avaient encore une scène à tourner derrière, parce qu'on allait changer le décor, etc. Et que tout d'un coup, je me retrouve face à Juliette, et que, en plus, la caméra est sur moi. Je me dis, mais on pourrait commencer avec elle. Et que, je tourne en deux prises. Tout, j'ai attendu ça pendant des semaines, pendant des jours, et en fait, j'ai que deux prises. Et puis il dit bon, bah stop, voilà. Et la caméra se retourne sur Juliette. Et après, allez vite, on fait autre chose, etc. J'étais décomposée. J'étais décomposée. J'avais Christophe Kieslowski comme directeur. Il m'a rien dit. Donc j'étais. Quand on m'a dit bah c'est fini, Florence, vous pouvez rentrer, je suis restée et j'ai attendu pour revoir Christophe Kieslowski. Je me disais mais c'est pas possible. Pourquoi il me dit rien? Pourquoi? Donc j'attends et finalement la journée de tournage s'achève. Il va aux toilettes, donc je le suis. Je me mets derrière la porte. Et là, quand il ouvre, il me fait « Ah, oh, Florence !» Alors je dis « Oui, everything is okay ?» J'arrivais même plus à parler tellement j'étais émue. Je dis « Mais ça va, ça c'est, vous avez trouvé que ça s'est bien passé ?» Et il me dit « Of course, bien sûr. Ouais. J'ai dit, mais you didn't tell me anything. Et il me dit, mais je vous ai choisi. Et là, tout d'un coup, c'est vrai, j'ai réalisé. Et il m'a dit, en fait, un film, c'est un casting. Si je vous choisis, c'est que vous êtes exactement ce que je veux.
C'était ça le problème de la légitimité.
Exactement.
En 2011, vous écoutiez
Birds flying high.
La reprise de Michael Bublé.
Ouais. You know how I feel.
Alors, on a un peu parlé de cette période avec la conquête et votre rôle de Cécilia Sarkozy, mais c'est plutôt la rareté au cinéma en fait qui nous frappe.
Oui, de pas vous voir incarner un personnage, une femme puissante ou une femme lambda au cinéma.
Je lance un appel. Bon, alors ça, je crois que c'est dû à ma présence à la télé et au fait, si vous voulez, d'avoir acquis une notoriété par les séries et notamment par Le Juge est une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me parle encore du Juge est une femme, alors que j'ai arrêté en 2001.
Ça, c'est pas fini. Maintenant que tout le monde fait tout des séries,
et non,
je
pense que c'est fini.
Ça devient chic maintenant de faire des séries.
Voilà. Mais autrefois, si vous voulez, moi, quand j'ai commencé, on me disait ah non, fais pas de la série, fais pas de la télé. Etc. C'était vraiment avoir la lèpre. Quoi.
J'avais entendu un producteur qui disait il n'y a aucune raison qu'on paye une place de cinéma pour, alors qu'on voit quelqu'un gratuitement.
Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Ouais. Moi, je l'ai entendu, ça. Et je pense que, si vous voulez, après, vous avez, pardon, je vais être vulgaire, mais une putain d'étiquette qui vous colle à la peau.
Oh, c'est choquant. Étiquette, il faudrait trouver un autre mot.
Vous en connaissez d'autres. Et donc, si vous voulez, les gens sont... ils se disent « Ah, Florence Pernel, actrice de télé, quoi. » Alors que on est actrice tout
point.
Court. Ouais. Voilà, point. Mais ça,
et
je n'y peux rien.
Que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision.
Mais heureusement, il y a quelques metteurs en scène qui dépassent, et comme Cédric Lapiche, etc., qui dépassent ces barrières, quoi, et qui font appel à vous.
Ces préjugés. Vous êtes au théâtre La Bruyère. Hier, je le rappelle, avec suite française de cette pièce étant l'adaptation du roman d'Irène Némirovski. Et justement, Olivier Philipponin, merci de venir à ce micro. Vous êtes biographe d'Irène Némirovski qui est née en Russie, à Kiev, c'est ça?
Oui, elle est née à Kiev, dans l'Empire russe, en 1903 ou 1900. Les documents ne sont pas très très clairs.
Elle arrive ensuite en France dans les années 20.
Elle arrive en France avec ses parents en 1919, en étant passée par, elle a vécu les deux révolutions à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Elle est passée par la Finlande, la Suède, ils sont arrivés à Rouen en 19.
Et suite française, cette pièce, comme l'a expliqué tout à l'heure Florence Pernel, a été écrite pendant l'occupation, pendant la guerre, dans les années 40.
C'est ce qui rend ce roman absolument unique, c'est-à-dire que des romans sur la débâcle de 40, sur l'occupation de la France par les Allemands, il y en a des tas. J'ai vu qu'il y en a encore un qui vient de sortir là de Romain Slocombe qui s'appelle La débâcle. Mmh. Et le projet est apparemment assez similaire à celui du roman d'Irène Némirovski, mais la grande différence c'est que Irène Némirovski a écrit ce roman sur l'occupation de la France au moment où elle le vivait elle-même et en prenant des risques d'un point de vue littéraire considérable, puisque Florence l'a rappelé tout à l'heure, ça raconte quand même dans la deuxième partie une histoire qui ressemble effectivement au Silence de la mer de Vercors, mais à cette différence que dans le Silence de la mer, la jeune femme et l'allemand ne se parlent pas.
Non.
Enfin, la jeune fille refuse de répondre.
Fille.
Alors que dans le roman d'Irène Némirovski, elle montre la réalité de la France occupée, à savoir qu'il y a eu, oui, des contacts entre des jeunes filles françaises et des soldats allemands très éduqués, comme Bruno, le soldat de suite française.
Et comment cette femme, qu'on connaît assez peu finalement, cette auteure, même si elle a été récompensée d'un prix littéraire, en est arrivée à l'écriture? C'est pas complètement anodin.
À l'écriture de ce roman-là?
L'écriture, même de l'écriture.
C'est une petite fille qui était, qui avait d'abord, qui est une fille unique, et qui a vécu une enfance très délaissée, qui est une des grandes inspirations de son œuvre, puisqu'il y a 15 romans, une cinquantaine de nouvelles à peu près à lire, délaissée par sa mère, parce que sa mère, effectivement, l'a rejetée, parce que finalement, plus sa fille grandissait, plus ça accusait son âge à elle. Sa mère voulait continuer à avoir une vie de séductrice, d'amante, etc. Donc elle a véritablement rejeté sa fille. Et la mère est un personnage très présent dans le Irène Némirovski. Et puis son père était un homme d'affaires qui était jamais, à peu près jamais là, qu'elle a adoré, qui était certainement un père très très aimant, mais qui quand même était rarement là. Donc c'est une petite fille désœuvrée, et très souvent ça produit des écrivains.
Alors tout à l'heure Florence Parnell nous a raconté comment l'œuvre a été mise dans une valise et n'en est sortie que dans les années 98-2000, c'est ça, suite à une inondation. Ouais.
Je pense que c'est un petit peu avant, mais enfin la date a pas grande importance. Mais
mais le fait que ses filles aient eu peur justement de d'ouvrir la valise. Ça, c'est quelque chose d'incroyable.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le contenu de la valise, elle le connaissait. Elles ont, alors, après l'arrestation de leur mère, puis de leur père, un par un, ce qui est quand même dramatique, en octobre 42, leur gouvernante, donc Julie, les a prises sous sa protection. Et il faut imaginer que ces deux petites filles ont 5 et 13 ans. Donc oui, elles emportent effectivement la valise avec quelques effets et puis les manuscrits de sa mère, puisque leur père, au moment où il a été arrêté, a dit, ça c'est Denise qui nous l'a raconté, conservez bien ce manuscrit, votre mère va revenir, doit revenir pour l'achever. Donc dans leur esprit, c'est un manuscrit inachevé qui n'est pas complet. Alors là où l'histoire est un peu plus compliquée, c'est qu'il y a une version ultérieure de ce roman qui a été tapée à la machine par le mari d'Irène Némirovski. Irène Némirovski, elle souhaitait publier ce livre, son éditeur était au courant. Oui, il a été oublié, et les filles, c'est pas qu'elles n'ont pas osé le lire, c'est vrai qu'il a une apparence de brouillon, et puis je pense qu'elles ont conservé dans l'esprit, à l'esprit, que ce roman n'avait pas été terminé par leur mère, donc on n'y touche pas. Mais en réalité, quand on feuillette le manuscrit, on voit bien qu'à la fin, il y a le mot fin écrit de la main d'Irène Némirovski. Donc c'est quand même une œuvre complète.
Ce qui n'a pas été le cas de tous les romans d'Irène Némirovski. Est-ce que les filles ont poursuivi un roman ou un manuscrit parmi tous ceux qui étaient présents dans la valise?
Poursuivi, vous voulez dire
achevé, ouais.
Achevé.
Ah non, il n'y avait pas de roman achevé. Il y a des romans qu'elle avait achevés mais que son éditeur avait déjà en main, qui ont été publiés après guerre sans grand succès parce qu'elle a été vraiment oubliée pendant 50 ans, on peut dire. Hein. Il n'y a que deux romans qu'on continuait à lire dans les années 2000 encore. C'était David Golder et le bal, qui l'avait rendu célèbre tout début des années 30.
Si le texte avait été saisi au moment de la déportation d'Irène Némirovski, que serait-il passé pour ses écrits?
S'il avait été saisi,
c'est brûlé.
Ah, saisi, vous voulez dire dans ce sens-là. Écoutez, je pense qu'il y a peu de chances que ce manuscrit ait pu disparaître à ce moment-là, en vérité.
Non, mais parce dans que... son contenu, j'imagine que raconter le rapprochement d'une Française et d'un
Allemand. Et c'est vrai que quand on lit la deuxième version de Suite française, elle a édulcoré pas mal de choses parce qu'elle parle aussi du village où elle a été réfugiée, où elle s'est réfugiée depuis 1940. Et quand on connaît la vie de ce village, les gens sont très identifiables. Donc c'est quelque chose qu'elle aurait certainement modifié. Il y a aussi un autre épisode célèbre dans le roman qui est la mort du prêtre, qui en fait, ce prêtre est un portrait du prêtre qui l'avait converti au catholicisme en 39, et elle le fait mourir dans des conditions absolument abominables dans le roman. Mais entre-temps, elle a appris que ce prêtre était mort les armes à la main en juin 40, au combat en Lorraine, et donc elle a réécrit une version plus sympathique de ce chapitre, par exemple.
Les deux filles ont heureusement pu échapper aux Allemands grâce à leur... nounou, enfin je sais pas quelle est
la gouvernante.
Oui, c'est ça.
Qui les a cachés, qui a fui, comment
ça. Donc Irène Némirovski a été arrêtée le 13 juillet par la gendarmerie française, devant ses filles et devant son mari. Ils auraient très bien pu les arrêter tous les quatre, mais ils n'avaient besoin que d'une personne dans cet arrondissement pour compléter le convoi numéro 6. Là, ça s'est reproduit 3 mois plus tard pour son mari, qui a vécu ces 3 mois dans les conditions d'angoisse qu'on imagine. On est venu chercher uniquement le mari, qui était convaincu que c'était la dernière façon pour lui de sauver sa femme, c'était d'aller la retrouver, après avoir tenté toutes les démarches. Et les petites filles devaient être arrêtées quelques jours plus tard. On a les listes de la sous-préfecture sur lesquelles on a tous les noms des juifs domiciliés dans l'arrondissement de en Bourgogne, en Saône-et-Loire.
Elle a été planquée par son institutrice, Denise.
Alors c'est ça, ouais. Donc les noms figuraient. Elle devait être arrêtée à un moment ou à un autre.
Elle a été cachée.
On ne sait pas exactement la date, mais effectivement, les gendarmes sont venus pour les arrêter. L'institutrice de village les a cachées. Ouais. Et très peu de temps après, la gouvernante les a emmenées. Elles ont été cachées dans un pensionnat catholique près de Bordeaux. Ouais, elles ont dû fuir à nouveau. Ouais.
Et au-delà de du côté vivant de cette œuvre au moment de son jaillissement, c'est elle a vraiment écrit dans le contexte dans lequel tout cela se passait. Il y a quand même son écriture, son talent d'auteur aussi. On parlait de causticité tout à l'heure, de détails, de ton. On retrouve, on comprend mieux maintenant les portraits des mères aussi, en tout cas dans la suite française.
Ouais, c'est vrai que tout au long des années 30, Irène Emerowski, elle a aspiré non seulement à devenir française, elle n'a jamais obtenu la nationalité française, elle a été arrêtée comme juive étrangère, mais elle a aussi, elle aspirait à devenir un grand écrivain français. Et dans les années 30, elle écrit pas mal de romans qui ressemblent un peu à du Mauriac, etc., qui ont moins marché que les autres, que les premiers où elle faisait preuve d'un talent d'ironiste, d'humoriste très très mordant en effet. Et elle retrouve ça dans Suite française. Et ce qui est très frappant quand on lit ces journaux de travail de cette époque, c'est qu'elle y prend un plaisir extraordinaire alors que sa situation personnelle est dramatique.
Vous avez coécrit avec Patrick Liénard La vie d'Irène Nemirovski, pardon, paru aujourd'hui en livre de poche. Merci Olivier Philipponin d'être venu à ce micro. Nous continuerons bien sûr de parler de Suite française avec Florence Pernel tout à l'heure. Mais d'abord, Tanguy Passion nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous nous emmenez en Russie ce midi.
Oui, puisque ce pays immense qui fait 16 fois la taille de la main de Teddy Riner est à la pointe de l'élevage des vaches. Enfin, quand je dis à la pointe, ça signifie qu'ils produisent toujours plus de que nos gosses, ces petits cons, foutent sur leurs chocopops. Dernière trouvaille, ils ont eu l'idée de mettre aux vaches des casques de réalité virtuelle pour qu'elles se sentent bien.
On en reparle après les infos de midi.
En raison d'appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales portant sur le projet de réforme des retraites, nous n'avons pas été en mesure de diffuser le programme initialement prévu. Nous vous prions de nous en excuser.
La bande originale avec Léla Gadeau-Boudelvis, Marina Rollman, Daniel Morin, Tom Villa,
bonjour Daniel.
Tanguy Pastureau et notre invité Florence Pernel. N'applaudissez pas trop fort, Marina Rollman a très 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 mal à la tête.
Et si vous avez une tartiflette,
cette petite gueule de bois.
Mais ça se voit tellement.
C'est la vieillesse, hein.
C'est terrible. Mais c'est ce que.
Attendez, vous y êtes pas encore.
C'est ce que nous disions tout à l'heure. Non, mais le corps t'envoie des signaux avec.
Le corps vous prévient.
Tu arrêtes de faire ça.
Ou alors il faut le faire tout le temps. Moi, je crois que le problème c'est que je suis.
Ne jamais redescendre
le reste du temps.
Ne jamais redescendre. Ne jamais faire de yoga.
L'entraînement. Maître mot.
Quand j'étais étudiant, mais je passais mais sans aucun problème des nuits blanches à bosser ou à faire la fête, ainsi de suite. Et il y a un moment où tu dis oui, nuit blanche, aucun problème. T'arrives à la radio, tu fais bonjour.
Massa Béranger a fait ça pendant des années.
Et Yves Morosi alors. Et là, tu sais que ton corps te dit non, c'est fini. Et c'est valable pour les filles comme pour les garçons, c'est comme ça. Ouais. Suite française, d'après le roman d'Irène Nemirovski, on en a parlé tout à l'heure avec son biographe et avec vous, Florence Pernel, de cette pièce au Théâtre La Bruyère, avec Béatrice Agenin, Guylaine Londez, Samuel Glomé, Emmanuel Bougerolles, et puis en alternance, Cédric Revelon ou Gaëtan Borg, cette pièce que vous aviez initiée à Avignon.
Qui a bien marché au Festival de l'Avignon.
Oui, très bien, dire, parce que les deux, parce qu'on en a fait deux.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une grosse différence de jeu en un an ou en six mois de travail?
Oui, parce qu'en fait, au théâtre, les choses infusent et le fait de porter comme ça un rôle pendant un an quelque part, parce que ça vous quitte pas, vous savez que vous allez le retrouver. Et il y a
vous réglez des choses, vous
ouais,
changez.
Je pense que vous réglez des choses peut-être même malgré vous ou sans le savoir. Et du coup, quand vous vous retrouvez sur scène avec vos mêmes, alors en plus, il y a par exemple le rôle de Madame de Mondemort a changé. Ça a été créé avec Christiane Millet et c'est Guylaine Londez qui a repris le rôle là au festival. Et du coup, forcément, elle propose une autre couleur, d'ailleurs absolument formidable. Et donc, on se réajuste. Plus là, nous sommes passés d'Avignon à Paris, sur la scène du Théâtre de la Bruyère, on a été obligés aussi de rectifier des choses dans le décor, qui nous obligent à différents mouvements, à une position différente sur le plateau.
Mais on voit toujours ce qui se passe dans la chambre de l'Allemand, dans la chambre de la mère.
Bien sûr, mais moi, par exemple, alors, je ne sais pas pour mes petits camarades, mais moi, il y a une forme de
de maturité qui m'est arrivée dans le rôle. Et je pense que je la joue, enfin, j'interprète Lucille de façon moins victime, plus responsable.
Est-ce que justement, on peut jouer en faisant abstraction totalement du regard que l'on a aujourd'hui sur l'occupation, sur les nazis, sur les horreurs de la guerre, en se remettant dans le contexte d'un trouble que peut avoir une jeune fille pour un bel homme. Après, évidemment qu'il y a l'uniforme, évidemment qu'il y a la guerre et qu'il y a l'occupation, mais on arrive à faire abstraction de tout ça ? Sans passer pour une collabo et...
Moi, je suis pas sûre d'en faire abstraction. Je pense que je m'en sers énormément. Je m'en sers justement pour...
Le trouble.
Pour le trouble, pour cette espèce de résistance qu'on doit créer, enfin que je dois créer vis-à-vis de Samuel Glomet, qui dans la vie est un garçon absolument charmant et que je remercie tous les jours d'être un partenaire aussi sympa. Parce que franchement, jouer l'amour tous les jours, c'est pas évident. C'est un sentiment compliqué, l'amour. Parce que vous n'êtes ni en colère, vous n'êtes ni en pleurs, vous êtes ni... Et en plus, avec... Virginie Lemoine, qui travaille de façon très pointilliste, c'est très délicat et c'est vraiment des petits tours d'écrou les uns après les autres et donc si vous voulez, je me sers de tout ce que je peux connaître et de tout ce que je peux ressentir sur cette époque. En plus, étant la femme de Patrick Rothman, j'aime autant vous dire que je suis très très informée.
Brillant historien
sur l'époque. Ouais. Mais je me sers de tout ce que je connais et de tout le ressentiment et le sentiment que m'inspire cette période.
En tout cas, ça fonctionne. On est à la fois touché, ému, puis on est même surpris d'éclater de rire dans des situations.
C'est ça qui est merveilleux.
Non, pas là.
Ouais, et pourtant.
Ouais, suite Irène française au théâtre La Bruyère. Voici Tanguy Pastureau, monsieur. La réalité virtuelle, Tanguy, ça vous indiffère?
Oui, parce que j'ai déjà une vie de rêve. Je fais de la radio, je vous vois en vrai, Nagui. J'ai même rencontré Albert Algou, légende dans nos métiers, puisqu'il faisait déjà du divertissement avant la naissance du papa de Lynn Renault. Bref, j'ai pas besoin de me mettre un casque de réalité virtuelle pour kiffer ma race, ou même la race d'un autre si on tient absolument à vivre ensemble. Mais nos auditeurs, ces êtres brisés par le système, qui n'ont comme seul moment de plaisir dans la journée que cette chronique. Chut, connard, les femmes disent-elles à leur mari, c'est l'heure de Pastureau. Eh ben, ils se réfugient dans le virtuel. Mais pire, les animaux, ces êtres magnifiques parce que leurs poils souvent sont de deux couleurs, comme chez nous les quinquagénaires, se mettent aussi au virtuel. Ainsi en Russie, ce pays de liberté et d'épanouissement, en tout cas si on est Vladimir Poutine, se pratique en ce moment une expérience sur les vaches. Le souci avec les vaches russes, c'est qu'elles sont anxieuses. Or, il n'y a pas de psy pour vaches, parce que c'est compliqué de les allonger sur un sofa. Donc les Russes ont réfléchi et se sont dit, on va pas faire des massages thaï à nos bestiaux pour qu'ils se sentent mieux, on va faire comme avec mamie. Quand elle panique, on lui met un casque virtuel avec des images de Michel Drucker en 3D, nu, les tétons dressés, et pendant qu'elle a la bouche ouverte, on fout sa bouillie dedans. Seulement, les vaches ne sont pas stimulées par Michel Drucker, seuls les seniors et les chiens le sont. Donc, ils ont réussi à recréer des images de prairies en plein été, bucoliques, derrière on voit Émeric Caron passer main dans la pâte avec un castor, il y a même des insectes, hein, ces créatures qui n'existent plus en vrai. Et les vaches portant un casque sont moins stressées, hein, et elles ne voient plus le paysan, qui donc peut se balader en survêtement sans se sentir jugé sur ses vêtements. Christophe Maé également met un casque à sa femme. Mais pourquoi, allez-vous me dire, les Russes sont-ils si gentils au point de vouloir que leur vache soit plus à l'aise dans leur vie qu'un footballeur dans une call girl? Eh bien, ils ne le sont pas. Ce sont des ordures, comme le reste des humains. Ces suppôts de Satan qui puent l'axe pour homme et détruisent tout ce qui les entoure. S'ils font ça, c'est juste pour augmenter la production de lait, parce qu'on s'enfarcit des litres qu'on met dans des briques pour éviter de pomper directement la mamelle. On a notre pudeur. Hein, la même chose dans un petit club, il faut payer un kir à ce couple venu Dijon, donc on se doute bien qu'on va pas sauter sur une vache comme ça sans lui dire au minimum bonjour. Or, comme on se reproduit à vitesse grand V, parce qu'il y a des pays où il y a ni Netflix ni Amazon Vidéo, hein, donc les gens font l'amour. Quand nous on avait que Sophie d'avant sur la 2, on faisait l'amour aussi, hein. Et ben, il faut nourrir tout le monde, donc plus de lait. Les usines de Candiab tournent H24. Du lait. On vit tous en vrai le rêve que fait notre chat quand il pionce. C'est-à-dire tout le temps, c'est le point commun que les chats ont avec Gérard Larcher.
Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, vous qui vous y connaissez, pour détendre les vaches?
Oui, alors on peut faire comme pour les mecs, leur caresser le torse en leur disant que c'est pas grave, que ça arrive, le taf, la charge mentale, tout ça. Bon, la vache se détend. Mais des chercheurs danois sont allés plus loin. Ils leur ont fait écouter de la musique. D'abord du reggae, hein, seulement les vaches ne produisaient plus de lait. Elles étaient amorphes, hein, certaines avaient volé le briquet de l'éleveur pour essayer de fumer l'herbe du pré. Un échec. Puis on leur a passé du classique et ça les a apaisés. Nous aussi, ça nous fait ça. Dans la salle d'attente du dentiste, un petit Berlioz. Quand vous êtes Jean-Marc Morandini, que vous 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 apprêtez à vous faire poser votre 195e implant dentaire. Ça vous délasse? Mais si le dentiste est calé sur une radio rock et qu'elle passe Search and Destroy des Stooges, là, il va être moins serein. D'autant que la voix d'Iggy Pop, les fois où la veille il a fait une connerie comme boire de l'eau, rappelle parfois le bruit de la fraise dentaire. La musique classique, selon les chercheurs, a, je cite, un impact positif sur l'écoulement du lait. Vous leur mettez du Brahms, elle se vide comme moi quand j'ai entendu Céline Dion. À terme, on va dire à Renaud Cabusson, bébé, on t'a dégoûté un gros contrat. Lui va répondre à bon ou ça à la Philharmonie de Berlin. On va lui dire non, dans la ferme des 1000 vaches. Il y a les bûches de Noël qui se préparent. Il nous faut du lait. Vas-y, Nono, joue-y ton violon. Bref, à Moscou, il y a donc des vaches qui ne voient plus le jour parce qu'elles ont un casque de réalité virtuelle qui leur prend la moitié de la face, qui en plus doivent se taper radio classique. Parfois, on les bascule sur la playlist de grève de France Inter, mais il suffit qu'il y ait un Eddie de Préto et elle déprime, le lait ne coule plus. Donc, on revient sur du classique. Et tout ça dans le même objectif que tout le reste, hein, produire encore, toujours plus. Et pardon, je vais casser l'ambiance, mais pour produire du lait à flot, il faut engrosser la vache tous les 12 mois. Un veau naît, on le sépare de sa mère dans les 24 heures, les deux hurlent pendant des jours après les séparations. Nous, quand on laisse notre gosse à l'école pour son premier jour, on n'est déjà pas bien, hein, et on sait qu'à 16 heures, on le reprend. Bon, ensuite, il faut le gérer, donc très vite, on prend l'option garderie. Hein, 2 mois plus tard, on demande s'il n'y a pas une option nuit. Hein. Pour finir, au bout de 5 ans de grossesse, la vache éreintée finit à l'abattoir, où la plupart du temps, elle n'est même pas étourdie avant, alors qu'il suffirait de la mettre devant énergie douce pour que son cerveau déconnecte. Bref, le lait, si on peut s'en passer, autant le faire. Ça oui. va plomber Radio Classique, mais ça améliorera le bien-être animal. On n'est pas des veaux.
Absolument. Bravo, candidature.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Anything I do,
I want you here.
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way you say yes when I ask you to marry me. Tell me you want me as much as I.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Interro, culture, tout ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et Florence Pernel, vous pouvez essayer de me dire, par exemple...
Essayez, oui.
Quel personnage, quel rôle va jouer Arnaud Ducret? C'est le premier...
Xavier Dupont-Ligonnès.
Ouais.
C'est le premier comédien à jouer le personnage de Xavier. Ok, d'accord.
Non, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, j'ai la grinta, mais sinon demain.
C'est ça, ouais. Qu'est-ce que j'écouterai demain?
T'anticipes une soirée ce soir, toi. Ouais,
est-ce que vous connaissez Nicki Minaj?
Non. Ouais.
Rappeuse.
Elle a pris sa retraite.
On la connaît quand même beaucoup plus de dos.
Elle a pris sa retraite.
Oui, elle va s'occuper de sa famille, Nicki.
Elle a quel âge?
Je pense 36 ans. Elle va faire de la brocante. Elle a dit,
j'ai tombé. Je lui donnerai 2-3.
Je vends. Non, mais c'est surtout, elle est milliardaire, à succès. Ah bah ça, et elle a dit, j'ai plus besoin, maintenant je m'occupe de ma famille.
C'est tellement rare. Moi, je me dis toujours, pourquoi, par exemple, quand Madonna, ses derniers albums. Et voilà. Et je trouve ça beau de dire,
j'arrête. C'est parce qu'on peut avoir envie, moi, je comprends. Je suis pas sûre si je suis milliardaire.
Quand le dernier taratata.
Non, je serais milliardaire.
J'ai assez fait fortune.
Je serais milliardaire. Si je vous dis qu'il a vendu 100 000 livres de plus que son adversaire, je parle de quel duel? 100 000 livres de plus que son adversaire. C'est un duel. Deux personnes qui sont opposées, chacun a fait un livre et il y en a un qui a vendu 100 000 de plus que l'autre.
C'est pas Booba et Caris quand même.
Non.
Yann Wax, non.
Obama.
Sarkozy.
Pardon?
Sarkozy.
Exactement.
Ah, Hollande.
Exactement. Son adversaire. Sarkozy, Hollande. Exactement.
Ah, ouais.
Parce que la politique, ça vous intéresse au-delà de jouer des rôles.
Ouais.
Vous les lisez tous ces livres?
Non. J'avais lu au moment de la conquête, mais là, je dois dire qu'aujourd'hui, j'écoute tellement la radio qu'en fait, je reste très informée par la radio.
Un écart de 100 000 ventes, donc, entre Passion, le livre de Nicolas Sarkozy, et Les leçons du pouvoir, celui de François Hollande. Je sors bientôt en France, mais pas aux États-Unis. Je suis...
Un film
Woody Allen.
Exactement.
Ah ouais, oui. C'est vrai. Bah oui.
Bravo.
Bah oui. Et ouais, sorti en France le 18 septembre. Et...
Il ne sort pas aux États-Unis du tout. Hein.
Du tout.
C'est le film ou Woody Allen?
Pensez-vous...
Ah, Woody Allen, il sort plus du tout.
Pensez-vous qu'il faille distinguer l'être humain de son œuvre?
C'est une question compliquée, j'avoue. J'ai du mal à me positionner parce que, en même temps, ce sont des accusations portées. Sont-elles vraies? Sont-elles pas? Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de se positionner là-dessus. Hein.
Mais est-ce que, par exemple, les films de Roman Polanski, vous allez les voir? Les albums de Bertrand Cantat, vous les écoutez?
Alors, Bertrand Cantat, non. Parce que vraiment, ça m'est resté en travers de la gorge. Ce drame m'est resté en travers de la gorge, vraiment. Maintenant, j'ai du mal à lire Céline, et pourtant, quel auteur. Mais j'ai du mal à le lire, c'est vrai.
Nous aussi, on a du mal avec lui, et pourtant...
Quel auteur.
Il écrit bien. Daniel Morin.
Ah, il s'aime parler.
Allez, vas-y Daniel.
Vous le savez, l'utilisation de trottinettes, un peu de sérieux, est désormais très très contrôlée en France, très contrôlée.
Oui,
pas le droit de rouler sur les trottoirs, défense de se garer de façon sauvage, port d'un vêtement réfléchissant. Si le conducteur est âgé de moins de 12 ans, le port du casque est obligatoire. À feu avant, à feu arrière, vitesse maximum 25 km/h, pas d'écouteurs quand on roule. On commence à y voir plus clair, on y voit plus clair, certes, mais que risque-t-on vraiment? Il y a des amendes qui iront de 35 à 135 si on ne respecte pas les règles de circulation. Une amende qui pourra aller jusqu'à 1500 si on est pris en excès de vitesse, mais cela est-il suffisant? Eh ben non, pas du tout. C'est de la gnognotte tout ça. À Singapour, au moins, ils ont pris des décisions là qui dissuadent. Depuis avant-hier, si tu roules sur un trottoir singapourien, tu risques 2 mois de prison. Ah oui, là ok.
Ferme.
Ben oui, là mon ami, tu parles vraie répression. France Inter flash spécial à Singapour. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les conducteurs de trottinettes ne sont pas à la fête. Hier, un jeune Singapourien de 11 ans a été flashé à 120 km/h sur un trottoir de la ville. Il roulait sans casque et sans feu avant ni arrière. Les policiers l'ont poursuivi pendant 2 heures car il écoutait à fond Michel Sardou sur son iPod. Présenté en comparution immédiate, il a été condamné, tout cumulé, à 14 ans de prison. Il pourra toutefois réduire sa peine à 1 semaine de détention s'il accepte de se faire couper une jambe. L'ablation d'un membre inférieur étant considérée par les autorités singapouriennes comme un excellent moyen de ne pas enfreindre la législation relative à la conduite des trottinettes. Le conducteur étant mineur, les parents de ce dernier seront automatiquement condamnés à la peine de mort par décapitation. C'est l'enfant contrevenant qui devra couper lui-même la tête de ses parents. Un geste grave, voire traumatisant certes, mais qui selon le ministre ministère de l'éducation singapourien apprendra à l'enfant le sens des responsabilités. Là, arrêtez de rire, c'est horrible. Là, tu réfléchis à deux fois avant d'aller faire le zazou à roulette pour prendre une expression un peu punk. Une fois encore, la France fait preuve d'un laisser-aller insupportable. Moi, le mec ou la nana qui se présente à la mairie de Paris et qui dit... Parisien, parisienne, en ce moment, la circulation sauvage de certains moyens de locomotion dans notre ville, je dis, ça suffit. Avec moi, terminer le laxisme. Avec moi, c'est clair, les voyous, car ce sont des voyous. Les voyous qui roulent sur les trottoirs à trottinette ou même à vélo, c'est fini. Basta cosi. Si je suis élu, chaque Parisien qui sera accommodé sur son trajet par un comportement de trottinetteur non citoyen sera autorisé à sortir une arme et à faire feu. Voilà. Alors bien sûr, on leur colle pas une balle dans la tête, on n'est pas des monstres, on est le pays des droits de l'homme, mais une bonne balle dans la jambe, à titre d'avertissement, ça les fera réfléchir. Vive la France, vive Paris. Voilà, ça c'est de la dissuasion. Allez, joyeux armistice à tous, vive les poilus, à demain.
Merci, vraiment.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Tout de suite, Leïla, qu'est-ce que tu as retenu de Suite française ou de cette émission ?
Moi, ce qui m'a touchée, c'est de m'intéresser à la naissance de des émotions chez cette femme. Mmh. Et ça m'a fait penser à toutes les femmes qui ont été tondues à la libération, ce que je trouve profondément injuste.
Mmh. Mamie, si tu m'écoutes. Marina Rollman.
Moi, ça m'a donné envie de lire la biographie d'Irène Niemirovski parce qu'elle a une vie un peu folle.
Ouais. Tanguy Passureau.
Moi, l'émission m'a donné envie de soutenir Marina Rollman qui apparemment vit ses derniers moments.
Tom Villa. J'ai envie de voir Florence Fernel vendre un camelot dans une brocante.
Du riz au chinois.
Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Daniel Morin.
Moi, j'ai peur qu'avec la fiction, Florence Fernel retourne dans l'anonymat des actrices. Soutien, j'irai manifester pour vous à l'opéra ou ailleurs.
Florence, qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire d'une personne sortant de la salle du théâtre La Bruyère après avoir vu Suite française ?
Oh, j'aimerais d'abord entendre dire qu'ils ont passé un merveilleux moment, bien sûr, mais surtout, comme dit Marina, c'est-à-dire d'avoir envie de lire le livre, de découvrir le talent.
Le reste de l'œuvre aussi.
Oui, mais... le talent, parce que vraiment, c'est un talent lumineux, Irène Niemirovski, et non seulement...
Et moderne dans son écriture,
absolument,
parce que ça, c'est aussi important de dire. Il y a des vannes, il y a un rythme,
voilà.
Il y a une sincérité.
Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, elle est sans hypocrisie, elle est sans sentimentalisme et sans complaisance, et donc il y a quelque chose de très vrai. Quoi.
Au théâtre La Bruyère. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour les réalisateurs et metteurs en scène qui avaient prévu de travailler avec Florence Fernel, François Vicentelli et François Berléand et qui ont découvert ce matin qu'il y avait plus sécurisant comme casting. Alors pour Florence, on a appris ça ce matin. Mais pour les deux François, ça c'est depuis longtemps dans le métier quand même, évidemment. Les amis. Attention, hein. Désolé pour nos auditeurs qui nous ont reproché de cautionner les coucheries avec les Allemands et de qualifier la résistance de problème.
Oh.
Et alors c'est ça aussi l'audace de la bande originale. Mais non, j'ai tout compris. Oui, c'est ça la résistance contre la bien-pensance bobo, bolchevo, végano, France intérieure. C'est ça, ça va ? C'est bien ce que tu m'as demandé de dire, Nagui ?
Ok, super.
Alors désolé enfin pour nos auditeurs intello qui auraient oublié d'éteindre France Inter à 11h et qui regrettent d'avoir raté notre débat sur le destin, la destinée, le fatalisme et le hasard. Alors c'est pas faux, c'était bien, mais j'ai pas le temps de tout reprendre. Moi aussi, j'ai mon destin et mon fatalisme. Je dois aller faire l'amour avec Tanguy Pastureau juste avant d'aller à la cantine, c'est dans mon contrat.
Il n'y a pas d'apéro exceptionnellement aujourd'hui.
Non, non, étonnant.
Merci Florence Pernel,
merci
mille
à vous.
Fois.
Bravo.
Et bravo. On vous aime, bonne journée.
Il s'agissait d'une rediffusion de la bande originale datant du 16 septembre dernier.